mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 14 janvier. On commence sans plus tarder avec quelques rendez-vous sur les ondes et aussi à Granges, notamment ce samedi 18 janvier, puisqu'une grande manifestation action collective aura lieu à l'initiative du collectif Maternité à défendre. Et c'est une manifestation qui se veut donc festive, qui a comme objet de fêter les 50 ans de la loi Veil, donc la fameuse loi sur la dépénalisation de l'avortement, donc de l'IVG. L'idée, c'est de mettre en parallèle à travers cette journée un autre anniversaire, les 2 ans de la fermeture de la maternité de Granges et les conséquences que ça entraîne sur le territoire, notamment plus d'IVG justement et plus d'accouchements possibles sur le territoire. C'est pour toutes ces raisons que l'Union locale des syndicats CGT de Granges et de la région, l'Union locale CGT du Vigan aussi appelle tous les syndicats CGT notamment et leurs syndiqués à participer massivement à cette manifestation le 18 janvier prochain. C'est un communiqué qu'on a reçu, évidemment, vous l'aurez compris, de la part de la CGT. Et Radio Escapade se joint à cet événement avec une journée spéciale la veille, donc tout le vendredi 17 janvier, sur nos ondes. Une programmation spéciale avec des émissions qui seront diffusées avec différentes organisations du territoire, notamment, par exemple, des plannings familiales, évidemment, le collectif Maternité à défendre, qui eux seront déjà présents dès demain matin sur les ondes, mercredi, donc à 9h30, vous aurez une émission qui vous expliquera justement l'organisation et le sens à donner à toute cette journée et à ces anniversaires donc hautement symboliques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y aura des documentaires, des créations sonores, tout ça, ça sera toute la journée du vendredi. Et il y a déjà une petite bande-annonce qui vous annonce tout ça sur les ondes. Voilà, donc ce samedi 18 janvier à Granges, l'événement a été nommé Bon anniversaire Simone, puisque je vous le rappelle, en fait, les 50 ans de la loi donc de la dépénalisation de l'avortement. Une petite brève aussi sur des rendez-vous dans la semaine, c'est pas de notre côté, mais ça concerne tout le monde. On parle des méga-bassines, hein, vu que les autorisations en ce moment même, dont la méga-bassine de Sainte-Soline, ont été suspendues par la justice. Eh bien, dans le même temps, et dans un mouvement contraire, j'ai envie de dire, les convocations judiciaires des opposants, elles, se multiplient. Un rassemblement de soutien était prévu par exemple hier en Vendée. C'est la cour administrative d'appel de Bordeaux qui résumait dans le communiqué du 18 décembre, dont je vous avais déjà parlé, que 4 réserves, dont celle de Sainte-Soline, étaient illégales en l'absence de dérogation espèces protégées. Et bien malgré ces décisions de justice qui vont donc dans le sens des mobilisations contre les méga-bassines, plusieurs convocations judiciaires d'opposants à ces méga-bassines et des délibérés sont attendues en janvier et février. C'est le collectif Bassines Non Merci qui fait ce petit topo. Notamment, donc, ce lundi 13 janvier a eu lieu le procès de 2 militants accusés d'avoir dégradé des vannes de raccordement d'une bassine en Vendée. Un rassemblement de soutien était prévu devant le tribunal judiciaire à La Roche-sur-Yon. Ce vendredi 17 janvier sera rendu le délibéré du procès de Léna Lazare et Basile Dutertre. Ce sont les noms, plutôt les pseudonymes, des 2 porte-paroles des soulèvements de la terre qui se retrouvent souvent devant les feux des médias et de la justice. Cela fait suite à la commission parlementaire qui avait été ouverte après la mobilisation de Sainte-Soline en mars 2023, pour laquelle ils avaient été donc jugés responsables. Le vendredi 7 février aura lieu un rassemblement de soutien à Julien Leguet, qui est une figure aussi la porte-parole du collectif Bassines Non Merci, qui est convoqué à nouveau pour un procès, ça sera à Niort au tribunal, suite à un tag de soutien aux blessés de la manifestation de Sainte-Soline que lui impute la justice. Et enfin, le lundi 10 février, Ça se passe toujours à Niort, au tribunal, avec un rassemblement de soutien auprès d'un militant qui est convoqué, lui aussi, pour un procès. Là, on était le 18 décembre pour l'événement sur lequel il est jugé. Un événement qui marquait la décision de la justice sur l'illégalité de la bassine de Sainte-Soline, donc un rassemblement. Donc voilà, la justice ne laisse pas les militants tranquilles. Et petit récap donc, de tout ce qui va se passer de ce côté-là. Vous retrouvez toutes les infos, notamment en allant voir le site Bassine Non Merci. Et sur Reporter aussi, le journal de l'écologie où on pioche ses brèves, on nous parle eh bien, de 2024. Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est l'heure des bilans des températures. Comme tous les ans, ça devient marronnier. Donc 2024 était officiellement l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon l'observatoire Copernicus. Les températures ont en effet franchi ce seuil très symbolique des 1,5 degrés Celsius. C'était la limite normalement maximum de l'accord de Paris pour les écarts de température. Mais vous allez voir, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a passé ces fameux 1,5 degrés Celsius. En tout cas, depuis l'automne dernier, déjà, les scientifiques l'avaient prédit. Maintenant, les preuves sont sur les bureaux. Avec 15,10 degrés Celsius d'augmentation, enfin de moyenne, pardon, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle planétaire depuis les débuts des relevés qui datent de 1850. Donc on a dépassé pour la première fois ces plus 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça, ce sont des barèmes sur lesquels tout le monde s'était mis d'accord. Et donc c'est la première fois que ça a été dépassé sur une année civile. On était à plus 1,6 degrés Celsius. Toutes ces données sont évidemment alarmantes. Et c'est ce que dévoilait ce vendredi 10 janvier l'Observatoire européen du climat, donc Copernicus. Ces températures élevées, associées à des niveaux records de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ont entraîné des vagues de chaleur et des précipitations abondantes, sans précédent, ce qui a causé la misère de millions de personnes, selon les mots de Samantha Burgess, la directrice adjointe de ce service. À en croire donc la carte, le planisphère des anomalies de température, qui est disponible si vous allez lire cet article, la France a cette fois-ci été globalement épargnée. Pour autant, le rouge pourpre sur la carte, qui est le symbole de l'anomalie qui dépasse plus 5 degrés Celsius, donc là on est vraiment dans des gros écarts, la couleur rouge pourpre, elle, pour autant, recouvre de grandes surfaces sur ce planisphère, notamment le Canada, l'Europe de l'Est et aussi dans le Pacifique ou l'Antarctique. Ces chercheurs climatologues assurent que le changement climatique induit par les humains est le principal moteur de ce réchauffement, bien que d'autres facteurs aient aussi contribué, par exemple l'oscillation australe du courant El Niño. Je vous laisse aller cliquer sur les liens si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut revenir donc sur ces 1,5 degrés Celsius et dire que ça y est, l'accord de Paris est définitivement enterré ? Eh bien non, parce que c'est pas exactement ça que ça voulait dire. Pour être officiellement atteint, ce seuil qui devrait être franchi, il devrait être franchi sur plusieurs décennies. Copernicus mesure ainsi à plus 1,3 degré l'actuel réchauffement de la planète en prenant en compte la moyenne des 5 dernières années. Voilà. Bon, si les climatologues ont coutume de rappeler que chaque dixième de degré compte, ce seuil des 1,5 degrés Celsius demeure crucial. C'est en effet une référence qui a été prise dans de nombreux travaux scientifiques qui montrent à quel point s'aventurer au-delà sera catastrophique aussi bien pour les humains que le reste du vivant. À titre d'exemple, donc, un réchauffement qui serait limité à 1,5 degrés Celsius, donc vous l'aurez compris, sur au moins une décennie, par rapport à, par exemple, 2 degrés Celsius, ce qui n'a pas l'air grand-chose, quand même un demi-degré de température, eh bien, au niveau global, ça permettrait, par exemple, de réduire de 10 cm la montée du niveau des océans, ce qui fait 10 millions de personnes exposées en moins au risque des montées des eaux. Ce seuil des 1,5 degrés Celsius est aussi très important, donc évidemment, pour les petits états insulaires en développement. Par exemple, à titre d'exemple, donc le montant des préjudices annuels qui sont dus aux cyclones tropicaux pour les îles de Antigua et Barbuda, cela augmenterait de près de moitié. Donc le montant des préjudices si le réchauffement climatique atteignait 1,7 degrés Celsius en 2050 au lieu des 1,5 degrés Celsius. Voilà, ils ont traduit ça en dégâts et donc en argent. Et ça augmenterait de plus de 3 quarts si on passait au 1,8 degrés Celsius. Donc vous voyez que les dixièmes de degrés ont des gros impacts, notamment sur tout ce qui est infrastructure côtière. Ça, ce sont des chercheurs de l'institut allemand Climate Analytics qui l'avaient révélé au mois d'avril. Donc lorsque les scientifiques rappellent que chaque dixième de degré compte, Cela fait aussi écho à la menace de déstabilisation massive des systèmes terrestres, des transformations irréversibles qui sont déclenchées à un certain seuil de température. On parle là de points de bascule. Les choses ne se passent pas de manière graduelle, il y a des petits moments où ça change, par exemple, quand l'eau s'évapore à 100 degrés, eh bien, c'est un point de bascule. Ces points pourraient par exemple entraîner la disparition des récifs coralliens ou la fonte de la calotte glaciaire au Groenland par exemple. Ces études montrent donc que nous jouons avec le feu, plusieurs points de bascule pourraient être franchis à un moment extrêmement difficile à anticiper, quelque part entre les plus 1,5 degrés Celsius et 2. D'où l'importance que l'on franchisse ou non définitivement ces 1,5 degrés Celsius de réchauffement global, de tout faire pour limiter le plus tôt possible la montée des températures, soulignent encore les climatologues. Pour l'heure, eh bien, malheureusement, tous les compteurs sonnent l'alerte. À l'exception du mois de juillet 2024, tous les mois depuis juillet 2023 ont dépassé cette barre des plus 1,5 degrés Celsius et chacune des 10 années écoulées depuis 2015 figure dans le top 10 dramatique des plus chaudes enregistrées. On se rapproche donc pour l'instant de ce qu'il ne faut pas nommer. Allez, on termine avec ces petites histoires de température et de climat en faisant un petit tour en Californie où ça continue de cramer. Et le NWS, le National Weather Service, donc le service météorologique américain, prévoit de nouvelles rafales de vent pouvant atteindre entre 80 et 112 km/h pour ce début de semaine dans la région de Los Angeles. Les vents ne seront pas aussi puissants que ceux qui ont alimenté les incendies de la semaine dernière, mais ça reste une situation extrêmement dangereuse pour toute la mégalopole californienne. Dans cette soirée, par exemple, du dimanche 12 janvier, les comtés de Los Angeles et de Ventura ont de nouveau été placés en alerte rouge jusqu'à demain, mercredi. Les autorités ont prévenu que quiconque qui résidait dans le comté de Los Angeles, ça fait 10 millions de personnes quand même, était susceptible de recevoir l'ordre d'évacuer à tout moment. En effet, ces vents, combinés à une faible humidité, vont maintenir le risque dans l'ensemble du comté de Los Angeles à un niveau très élevé, a déclaré le chef du département local des pompiers lors d'une conférence de presse. Les zones évacuées pourraient rester fermées jusqu'à ce que les alertes rouges soient levées a priori ce jeudi. Le bilan des incendies en cours à Los Angeles est passé à 24 morts, il pourrait continuer à augmenter à mesure que les enquêteurs inspectent les décombres. Parmi les incendies qui ont ravagé le comté, le premier dont on a parlé, celui de Palisades Fire, il est contenu encore ce dimanche soir qu'à 13%. Il continue donc à cramer. Ça, c'est le Los Angeles Times qui explique ça dans son direct. Cet incendie a déjà ravagé près de 10 000 hectares, ça fait à peu près la taille de Paris, que ça soit sur Pacific Palisades, donc ce quartier très cossu de Los Angeles, ou tout le long de la Pacific Coast Highway en direction de Malibu. Et de nombreux quartiers de Pacific Palisades, Malibu, Santa Monica, Calabasas, Brentwood et Encino sont encore sous le coup d'ordre d'évacuation. Au nord-est de la ville de Los Angeles, un autre incendie restait très actif, le Eaton Fire, qui était contenu ce dimanche soir à seulement 27%. Pour une chercheuse de l'Université de Californie, Crystal Colden, la présence de quantités importantes de végétation sèche, de la sécheresse et de vent fort chaud et sec forme un cocktail explosif et un incendie incroyablement dangereux.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein ?
Des nouvelles du monde.
Allez, on reste dans une ambiance tropicale. On part en mer de Chine. Que se passe-t-il de ce côté-là ? Eh bien, j'ai lu ce matin que les patrouilles des gardes-côtes chinois se rapprochaient de plus en plus des côtes des Philippines, selon les autorités philippinaises, donc, qui ont déclaré aujourd'hui être alarmées, notamment par la présence d'un navire garde-côte monstre qui a été repéré ces jours-ci. Ce bateau fait en effet 165 mètres, donc un bateau monstre de l'armée chinoise. Il est situé à 143 km à l'ouest de la province de Zambales, au nord-ouest des Philippines, et il est la preuve pour eux de l'agression croissante de la Chine dans les eaux philippines. Ces bateaux se rapprochent des côtes des Philippines et c'est alarmant, expliquait aujourd'hui le porte-parole du Conseil national de sécurité de l'ONU, Jonathan Malaya. Au cours des deux premières semaines de l'année, donc les bateaux chinois se sont déjà approchés à moins de 112 km des côtes des Philippines. La dernière opération en date relève d'une tactique d'intimidation destiné à décourager la pêche philippine, selon cette source. Pour Jay Tariella, qui est un porte-parole des gardes-côtes philippins, Ce bateau géant chinois, identifié comme étant le CCG-5901, ne mène pas d'action très agressive, mais sa simple présence est déjà inquiétante. Les gardes-côtes philippins ont déployé, eux, de leur côté, du coup, des navires de taille 84 et 97 mètres, hein, c'est à qui aura le plus gros, afin de faire pression sur le bateau chinois pour qu'il s'éloigne de la côte. Pékin revendique en effet la quasi-entièreté de la mer de Chine méridionale, malgré une décision de justice internationale qui indique que ses prétentions n'ont aucune base légale. Les relations donc entre Manille, la capitale des Philippines, et Pékin se sont tendues ces derniers mois, avec notamment la multiplication d'accrochages autour de récifs en mer de Chine méridionale que les deux pays se disputent. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, d'ailleurs, Guo Jiakun, a affirmé ce matin même que les gardes-côtes chinois opéraient conformément à la loi, et il a appelé Manille à cesser toute action qui compromet la paix et la tranquillité en mer de Chine méridionale. Du côté de l'Israël et la Palestine, un dernier cycle de pourparlers en vue d'une trêve est entamé. Donc une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Il doit débuter aujourd'hui au Qatar pour mettre fin à plus de 15 mois de guerre dans ce territoire palestinien. C'est ce qu'a affirmé à l'AFP une source proche des négociations, qui a souhaité rester anonyme. Une dernière série de discussions devrait avoir lieu aujourd'hui, donc à Doha, entre les chefs des agences de renseignement israéliennes, les émissaires les américains et le Premier ministre du Qatar d'un côté, et de l'autre côté, les médiateurs et le mouvement islamiste palestinien Hamas de l'autre. Donc cette source anonyme a déclaré cela à la presse, des discussions qui viseraient à finaliser les derniers détails de l'accord. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte tentent depuis des mois de parvenir à un accord pour faire cesser les hostilités et obtenir la libération des 94 otages retenus dans la bande de Gaza, dont 34 sont morts selon l'armée israélienne. Les négociations indirectes ont donc repris début janvier dans la capitale qatarie de Doha. Et hier, donc cette source proche des négociations faisait état de progrès significatifs réalisés sur les derniers points d'achoppement, ce qui permettrait d'aboutir à une nouvelle proposition concrète soumise aux parties. Cette proposition prévoit dans un premier temps la libération de plus d'une trentaine d'otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens. Elle a été positivement accueillie par les deux parties, avait indiqué cette source, et c'est donc cela que j'ai lu dans une dépêche AFP de ce matin. On va s'intéresser aux Linky. Vous savez, on n'en parle plus, ces petits boîtiers verts qui sont d'ailleurs installés un petit peu partout. Et bien justement, on arrive au terme de la période de déploiement du Linky. Un premier bilan donc, de l'installation de ces compteurs d'électricité a été concocté à la fin de l'année. Et c'est dans les colonnes de reporters qu'on peut lire ce résumé. Spoiler, les compteurs Linky ne permettent pas aux usagers de faire des économies. 10 ans après ce lancement, donc l'installation généralisée des compteurs Linky est en passe de se terminer. Pour l'occasion, à partir de cet été, Enedis, qui est donc le gestionnaire du réseau, facturera environ 11 euros de taxes supplémentaires tous les deux mois pour les derniers récalcitrants qui ont refusé et qui refusent encore l'installation de ce compteur connecté et qui permet de transmettre donc leur relevé de consommation. Donc a priori, ça va être ça l'amende, 11 euros de taxes supplémentaires tous les deux mois. C'est la dernière étape, donc après des années de déploiement dans tout le pays, parfois à marche forcée, hein, on s'en souvient pas mal sur le territoire, ça a résisté. 34 millions de compteurs ont été installés en tout, pour un coût de seulement 4,6 milliards d'euros. Ça, c'est ce que apprend un rapport de la Cour des comptes publié fin novembre. Donc c'était 880 millions de moins que ce qui avait été estimé au départ. Un bilan financier qu'on peut donc lire dans ce rapport de la Cour des comptes qui apprend entre autres que Linky a profité surtout à Enedis, mais bien peu aux particuliers. En effet, la Cour des comptes a constaté que le premier bénéficiaire de ce projet était avant tout Enedis, le gestionnaire du réseau, qui a eu déjà des conditions financières très avantageuses, avec un mécanisme très complexe de différé tarifaire qui a été mis en place avec l'aval de la Commission de régulation de l'énergie pour soutenir l'installation de ces compteurs connectés. L'investissement avait été porté au départ par Enedis, donc la filiale à 100% d'EDF, je vous le rappelle, mais il a été finalement intégralement remboursé grâce aux économies que Linky a permis de faire à l'entreprise. Et de fait, depuis 2021, relève la Cour des comptes, c'est en fait le consommateur qui a financé le coût de ce différé tarifaire à hauteur de 785 millions d'euros, à travers une des principales taxes sur l'électricité, la taxe TURP, T-U-R-P-E. Ce problème avait d'ailleurs déjà été pointé en 2018 lors du précédent rapport de la Cour des comptes sur Linky. Et surtout, maintenant que les compteurs sont amortis et que tous ces processus de tarification, etc., sont rentrés dans leurs frais, on va dire, eh bien maintenant Enedis va pouvoir empocher clairement des bénéfices et bénéficier du principal intérêt technique de ces compteurs, c'est de pouvoir réaliser les opérations à distance sans avoir à faire déplacer de techniciens. Ces économies avaient d'ailleurs favorisé la suppression de près de 2500 emplois déjà de techniciens de proximité par le passé. Donc ça, c'est du côté d'Enedis, mais pour nous, pour les consommateurs et les usagers, la Cour des comptes peine à voir l'intérêt concret de ce compteur. Hein. L'utilité résidait, selon Enedis, dans le fait d'avoir une analyse intelligente des consommations, donc notamment de pouvoir suivre les heures et les postes de dépenses d'électricité pour pouvoir agir dessus. En réalité, Linky fournit en effet cette information avec la possibilité de connaître sa consommation électrique par tranche de demi-heure. Hein, on est quand même encore loin des fantasmes d'une maison connectée et pilotée à distance, parce que Linky ne fait pas ça, lui. Eh bien, d'après l'ADEME, l'Agence de transition écologique, les compteurs communicants ne permettent pas à eux seuls de réduire les consommations. Ils n'éteignent pas, ils n'allument pas vos postes. Ils contribuent à faire monter, par contre, les ménages en compétence sur les questions énergétiques. Mais ce qui est déterminant, c'est la motivation et l'accompagnement des ménages pour justement modifier ses habitudes. Et ce domaine, eh ben, Linky, ce n'est qu'un compteur, donc il n'est pas là pour nous aider à faire des économies. Un autre avantage attendu normalement de cette technologie, c'était d'en finir avec des factures très salées, des fois de régularisation qui avaient lieu tous les 6 mois, et de pouvoir payer plus près de ce que l'on consommait. Bien, la crise des prix de l'énergie fin 2023 a fait la preuve que ce n'était pas le cas. Il ne suffit pas d'avoir de l'information pour que cela se retrouve sur la facture, surtout quand 3/4 des usagers ont toujours un prélèvement mensualisé. Et enfin, la dernière promesse de Linky. Elle était liée à l'ouverture à la concurrence sur le marché de l'électricité et à des offres adaptées aux usages. Et là encore, en dehors des tarifs heure pleine, heure creuse, Linky n'a pas suscité une grande créativité de la part des fournisseurs d'électricité jusqu'à maintenant. Ainsi, les consommatrices et consommateurs ne s'y sont pas trompés, même s'il est toujours possible aujourd'hui de changer, et plus facilement de changer d'opérateur. On préfère toujours apparemment des offres avec des prix fixes ou prévisibles, comme le font les tarifs réglementés. Et cela d'autant plus quand les prix de l'électricité non régulés ont par exemple explosé au début de l'invasion russe de l'Ukraine durant l'hiver 2022. Un seul point positif dans ce bilan qui est jugé médiocre par le journaliste de Reporter, eh bien ce 4 janvier, et c'était la première fois sur le territoire, un habitant de la Loire a obtenu la désinstallation de son compteur Linky par principe de précaution, et donc aux frais d'Enedis. Le motif était l'électrosensibilité de cette personne. En effet, la juridiction, donc le tribunal, a estimé que l'électrosensibilité dont souffrait l'habitant était probable, hein, même s'ils n'ont pas pu la prouver à 100%, ça reste très compliqué au niveau médical, et notamment les causes. Pour lui, ça se caractérisait notamment par des maux de tête, une fatigue extrême, des troubles de la concentration et ou donc des sifflements. Tout l'enjeu juridique est d'attribuer ces symptômes à ce syndrome, donc le syndrome d'électrosensibilité, sachant que dans un premier temps, il faut vérifier que les symptômes ne sont pas dus à un autre problème de santé. En tout cas, pour cette personne, qui s'appelle Joseph Cassina, qui habite donc dans la Loire, dès le lendemain de l'installation de son Linky par Enedis, il expliquait entendre des sifflements dans sa résidence, dans sa tête en permanence, à tel point qu'il devait prendre un cachet tous les soirs pour s'endormir, et que dès qu'il partait de chez lui, ça allait mieux, et en revenant, ça recommençait, donc il a quand même dû se battre pendant 3 ans. Donc, la justice lui a donné raison, et ça risque de faire jurisprudence, c'est donc un retrait très symbolique. Hein. Enedis avait déjà été mis en cause pour des cas d'électrosensibilité, mais là, le jugement, c'est le premier qui est pris sur la base d'un principe de précaution. Ce qui fait dire à Enedis, qui veut minimiser l'affaire, qu'il s'agit d'un cas isolé. Du côté donc de l'avocat d'Enedis, on dit que la décision rendue par la Cour d'appel de Lyon fait figure d'exception et ne reflète en rien la jurisprudence relative à l'installation des compteurs Linky. Sous-entendu, c'est pas pour autant qu'il va falloir enlever tous les compteurs. En revanche, si vous souffrez vous-même d'électrosensibilité, c'est peut-être une très bonne nouvelle parce que ça risque de faire jurisprudence dans ces cas précis. Cette question sanitaire a d'ailleurs été centrale dans tout le combat des anti-Linky. 10 ans après, la Cour des comptes juge que les études réalisées ont bien été tardives, mais que la question est désormais soldée et qu'il n'y a pas de preuves effectives et en tout cas massives des dégâts que pourrait causer Linky sur la santé. En tout cas dans la Loire, le collectif Stop Linky 5G Loire espère, lui, que la décision fera jurisprudence avec notamment une simplification des procédures pour les autres clients qui seraient concernés.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et on termine ces nouvelles du monde avec des nouvelles un petit peu du monde de la culture qui rejoint l'actualité. C'est l'artiste de bande dessinée, entre autres franco-iranienne, Marjane Satrapi, je crois qu'il faut dire, eh bien, qui a refusé sa Légion d'honneur. Marjane Satrapi, si vous ne le savez pas, s'est fait mondialement connaître avec sa bande dessinée Persepolis, qui a ensuite été adapté en film d'animation, film brillant sur sa jeunesse en Iran. Elle a annoncé hier refuser donc la breloque, la Légion d'honneur qui lui était attribuée. Elle réfute malgré cela tout mépris envers l'institution qui l'a distinguée, hein. Mais cette autrice, qui avait par exemple signé la tapisserie officielle des derniers Jeux Olympiques, entend dénoncer une attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran, notamment pour ce qui est de l'attribution des visas. Marjane Satrapi est arrivée en France en 1994, elle est française, hein, naturalisée depuis 2006. C'est une réalisatrice donc de 55 ans qui a été promue au rang de chevalier de la Légion d'honneur au mois de juillet. Et finalement, elle a décidé de refuser, de décliner cette décoration en raison de ses principes et de son attachement à sa patrie de naissance, donc l'Iran. Elle a expliqué tout ça dans un courrier adressé à la ministre de la Culture, Rachida Dati, qu'elle a ensuite publié sur Instagram. Une vidéo a été faite ensuite quelques heures plus tard sur le même réseau social. Marjane Satrapi évoque une marque de solidarité avec les Iraniens, surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne, mais aussi avec ses compatriotes français retenus en otage en Iran. « Depuis un moment, dit-elle, j'ai réellement du mal à comprendre la politique de la France vis-à-vis de l'Iran. » Elle regrette notamment que de jeunes Iraniens épris de liberté, des dissidents, des artistes, se voient refuser des visas, y compris des visas simplement touristiques, dans le même temps que des enfants d'oligarques iraniens se baladent, eux, à Paris, comme à Saint-Tropez, sans que cela ne pose aucun problème. Selon elle, soutenir la révolution des femmes en Iran ne peut pas se résumer à des photos avec des victimes ou des célébrités lors des commémorations de la mort de Mahsa Amini. Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée pour avoir mal porté son voile d'après les gardiens de la révolution, et ensuite arrêtée et... battu certainement à mort par ses geôliers. C'est ce qui avait déclenché un vaste mouvement de contestation en 2022. Les Iraniens et les Iraniennes n'ont pas besoin de communication, nous avons besoin d'actions concrètes, continue Marjane Satrapi dans son courrier. Le refus de la Légion d'honneur n'est en aucun cas une action ou une pensée contre la France, dit-elle. Bien au contraire, j'aime profondément ce pays qui est le mien. Elle souhaite que la France reste justement fidèle à elle-même. Je serai honorée, dit-elle, lorsque tous les défenseurs de la liberté le seront à mes côtés. Quand vous avez un peuple qui se bat pour la démocratie, il faut le soutenir, résumait-elle. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour les Nouvelles du Monde. C'est d'ailleurs tout aussi pour cette semaine. Je serai malheureusement absent de ce micro jeudi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres infos. D'ici là, restez à l'écoute. Il y a pas mal de choses dont je vous l'ai dit qui se préparent le vendredi pour les 50 ans de l'anniversaire de la loi Veil. Et on y parlera donc beaucoup de la question de l'IVG, de la fermeture de la maternité de Gand sur le territoire et plus largement de la situation médicale, on va dire, qui concerne principalement les femmes sur notre territoire rural et bien d'autres en France. Voilà, je vous laisse en compagnie de l'automate de diffusion et puis je vous donne le menu de l'après-midi juste après les génériques.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.